De 1689 à 1713, Ligue d'Augsbourg et succession d'Espagne. Louis aime la guerre, il s'en accuse avant de mourir. Et les souverains d'Europe, toujours inquiets des désirs d'expansion du roi Soleil, lui donnent beaucoup d'occasions d'assouvir sa passion. Il se passe toujours quelque chose pendant le règne du roi Soleil. À peine vient-il de révoquer un édit que, déjà, une nouvelle guerre se prépare. En effet, une ligue s'est formée contre Louis XIV. Les pays d'Europe craignent les appétits belliqueux du roi de France. Cette coalition, qui prend le nom de Ligue d'Augsbourg, regroupe l'empereur d'Autriche Léopold Ier, Charles II, le roi d'Espagne, Charles XI, le roi de Suède, la Savoie, la Saxe, la Bavière, les Provinces-Unies et enfin l'Angleterre avec Guillaume d'Orange, le Stadtouder de Hollande. Celui-ci, champion du protestantisme, détrône en 1688 le roi anglais Jacques II, son beau-père. Il prend sa place, devenant ainsi le nouveau roi, Guillaume III d'Angleterre. Jacques II se réfugie en France auprès de Louis XIV. La guerre de la Ligue d'Augsbourg va durer presque 9 ans, de 1689 à 1697. Louis projette d'abord de déclarer la guerre à l'Angleterre afin d'y rétablir Jacques II. C'est un échec. Auparavant, il faut éviter qu'à l'est, les armées de l'empereur germanique soient tentées d'envahir le royaume. Comment atteindre cet objectif? Louvois, le ministre de la guerre, propose alors le pire des plans. Il faut ravager le Palatinat où les troupes étrangères pourraient se ravitailler. Et ce plan est appliqué. Mannheim, Speer, Heidelberg sont ravagés. Louvois s'apprête à ordonner que Trèves soit brûlée. Mais Louis XIV désapprouve la politique de son ministre, désastreuse pour l'image de la France. Louvois s'obstine. Le roi en vient à le frapper avec des pincettes afin de le persuader d'interrompre ses ravages. Trèves ne sera pas brûlée, mais le mal est fait. L'Europe est horrifiée par ce qui s'est passé dans le Palatinat. La guerre ne s'en poursuit pas moins, avec quelques victoires pour Louis XIV, mais aussi de sévères défaites, ainsi celle de la Hougue, bataille navale où la marine française perd la plupart de ses vaisseaux après une défense héroïque. La guerre de la Ligue d'Augsbourg se termine par les traités de Ryswick en 1697, les 20 septembre et 30 octobre. La France restitue à la Hollande toutes ses conquêtes depuis la paix de Nimègue en 1678. Toutes les conquêtes faites au détriment de l'Espagne retournent au roi Charles II. Louis XIV cède à l'empereur Léopold Ier le Palatinat, la Lorraine, contre Strasbourg. Louis XIV doit reconnaître pour roi d'Angleterre son ennemi Guillaume III. La dernière guerre de Louis XIV va être longue, 13 ans, de 1701 à 1714. Quelles sont les raisons de ce conflit appelé la guerre de succession d'Espagne? Le roi d'Espagne, Charles II, n'est plus, depuis longtemps, qu'un mort-vivant. Enfant de mariages consanguins successifs, il a été nourri au sein jusqu'à l'âge de 4 ans, tant il était chétif. Il a pour aïeul Jeanne la Folle, souffre d'épilepsie, de syphilis. C'est un triste sire dont l'Europe attend la disparition avec une certaine inquiétude car, malgré son mariage avec Marie-Louise d'Orléans, nièce de Louis XIV, il n'a pas d'enfant. Qui donc pourra lui succéder? Son petit-neveu, duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV ou bien son autre neveu, Charles, fils de l'empereur Léopold Ier d'Autriche? Charles II d'Espagne meurt à 38 ans. Le 1er novembre 1700. La lecture de son testament fait l'effet d'une bombe. Alors qu'on espérait qu'il laisserait la voie libre à un partage de l'Empire entre ses neveux et quelques autres puissances, c'est le duc d'Anjou qui l'emporte et devient roi d'Espagne. Louis XIV accepte ce testament et décide que son petit-fils ne renoncera pas à ses droits sur la couronne de France. Aussitôt, les puissances européennes se liguent contre la France. La voici engagée de nouveau dans la guerre. La France est d'abord victorieuse, mais elle rencontrera sur son chemin l'Anglais Marlborough, qui s'en va en guerre. C'est bien lui, celui de la chanson. Mironton, Mironton, Mirontaine. Marlborough, John Churchill, l'ancêtre de Winston.
Mironton, Mironton, Mirontaine. John Churchill, duc de Marlborough, juge bon de quitter le service du roi Jacques II, détrôné par son gendre, pour celui de Guillaume d'Orange, le nouveau souverain d'Angleterre. Marlborough va consacrer toute son énergie à se battre contre la France. À la bataille de Malplaquet, le 11 septembre 1709, le bruit court qu'il est mort. Dès le lendemain, les Français, ayant appris qu'il est sain et sauf, composent malgré tout une chanson où ils l'enterrent, lui dressant ainsi, pour les siècles qui suivent, une sorte de stèle musicale en forme de comptine, mélange de malice et d'irrévérence.
Espagne, nord de la France, Italie, Louis XIV doit faire face sur tous les fronts. Sur le front espagnol, deux événements importants servent les coalisés en Espagne. Charles III, le fils de l'empereur Léopold, s'implante à Barcelone. Il menace directement Philippe d'Anjou. Le Portugal abandonne la France et s'allie aux Anglais. Ceux-ci profitent de leur présence au sud de l'Espagne pour s'emparer de Gibraltar le 25 juillet 1704. Rocher qu'ils ne lâcheront plus. Puis ils prennent Minorque, envahissent la Sardaigne. Les voilà maîtres de la Méditerranée. Sur le front nord, en France, l'île capitule en 1708. Marlborough ravage la Flandre. Sur le front italien, rien ne va plus. Les Français sont contraints d'évacuer les positions qu'ils occupent. La situation est presque désespérée pour Louis XIV, qui est contraint de demander la paix. Le 27 avril 1709, les Alliés lui dictent des conditions inacceptables. Envoyer en Espagne des troupes afin de chasser son petit-fils et abandonner Lille, Toul et Verdun. Le roi répond alors
« J'aime mieux continuer à faire la guerre à mes ennemis plutôt qu'à mes enfants. »
Mais l'argent manque et l'armée se dépeuple. Tout est-il perdu ? Louis XIV va-t-il devoir accepter malgré tout les conditions humiliantes qu'on veut lui imposer ? Non. Le vieux roi lance un appel pathétique à ses sujets. Le 12 juin 1709, il leur écrit une lettre lue dans toutes les églises. Elle est si touchante que des milliers de jeunes gens volent au secours de leur souverain en péril. Ils s'enrôlent dans l'armée. Le 11 septembre 1709, les troupes françaises rencontrent à Malplaquet, dans le Nord, celles de Marlborough et du prince Eugène de Savoie, prince au service de l'Autriche. Les coalisés alignent 110 000 hommes, les Français 70 000. La bataille acharnée se déroule au corps à corps, à la baïonnette. Finalement, le maréchal de Villars, qui commande les troupes françaises, décide le repli en bon ordre. Marlborough semble se contenter de l'affaire, car il ne poursuit pas la bataille. La victoire est donc indécise. Le nombre de morts, lui, est très important. 10 000 du côté français, 20 000 du côté des coalisés. Cependant, l'avantage de cette bataille va à la France, qui a mis en échec l'avance de ses ennemis. Front espagnol. En 1710, Charles III s'est emparé de Madrid. En a chassé Philippe V. Pas pour longtemps. Louis XIV envoie à son secours Louis-Joseph de Bourbon, duc de Vendôme, le meilleur chef de guerre qu'il ait jamais eu à son service. Il remporte à Villa Viciosa, au nord-est de Madrid, une victoire qui permet à Philippe V d'être désormais assuré de son trône. Front Nord, en juillet 1712, le prince Eugène marche sur Paris. Le maréchal de Villars décide, malgré son infériorité numérique, de lui barrer la route. Il se lance avec ses 52 bataillons contre les lignes du prince et parvient à les rompre, à la baïonnette, sous un feu nourri. La France est sauvée, encore une fois. Toutes ces victoires permettent au roi de France de négocier la paix dans de bonnes conditions. D'abord à Utrecht, en Hollande, le 11 avril 1713, puis à Reichstadt, en Allemagne. Philippe V conserve le trône d'Espagne et les colonies américaines. Les Pays-Bas, le Milanais, la Sardaigne et Naples deviennent des possessions autrichiennes. L'Angleterre conserve Minorque et Gibraltar. La France doit détruire les fortifications de Dunkerque. Elle renonce à l'Acadie, à Terre-Neuve, au commerce dans la baie d'Hudson, à l'île antillaise de Saint-Christophe. Les provinces unies obtiennent le droit de tenir garnison dans plusieurs villes des Pays-Bas afin de constituer une barrière défensive au cas où ils prendraient encore à la France l'envie de les envahir. Qu'en est-il des frontières de la France? Et si on se penchait sur les caisses du royaume? Les Bourbons demeurent installés en Espagne. La France est intacte, mais considérablement affaiblie sur le plan européen. L'économie des Provinces unies est presque ruinée. L'Angleterre est la grande triomphatrice de cette guerre. Les caisses du royaume de France sont non seulement vides, mais le produit de l'impôt pour plusieurs années à venir est déjà dépensé.
1711, on rase le port royal de la Petite Pimbèche. L'homme est un être malfaisant, égoïste, orgueilleux. Ses actions n'ont qu'un seul but, la recherche du plaisir concupiscent. Il est sous le pouvoir de Satan. Mais il existe des hommes justes que Dieu décide de sauver en leur accordant sa grâce. Attention, cette grâce qui transforme le cœur de pierre en cœur de chair, qui libère de l'amour-propre et porte à faire le bien en toute occasion, peut à tout moment être retirée. Cette théorie bien pessimiste de saint Augustin est encore assombrie par Jansénius, l'évêque d'Ypres, qui écrit en 1636 l'Augustinus, ouvrage publié en 1640, après sa mort, et qui est immédiatement adopté par Port-Royal. Rappelez-vous la journée du guichet. Les jésuites qui voient en l'homme certes un pécheur, mais aussi un être capable de se prendre en main, d'agir, condamnent ceux qui partagent les idées de Jansénius, et qu'ils appellent les jansénistes. Ceux-ci ont fondé les petites écoles de Port-Royal où un enseignement fondé sur de nouvelles méthodes est dispensé. On y applique des méthodes douces, pas de punition corporelle, ce qui n'est pas le cas chez les jésuites. Un élève de ces petites écoles va devenir célèbre, Jean Racine. Port-Royal aura d'ardents défenseurs, Blaise Pascal par exemple. Mais Louis XIV n'aime pas Port-Royal, qui manifeste trop d'indépendance d'esprit. Il y envoie l'archevêque Ardoin de Péréfixe. Sa mission, faire signer aux religieuses 5 propositions condamnant le jansénisme. Ardoin le demande d'abord poliment, refus. Il l'exige, nouveau refus. Il se met en colère, traite la mère supérieure de « petite pimbèche ». La petite Pimbèche ne veut rien entendre, refus définitif. Des religieuses pures comme des anges mais orgueilleuses comme Lucifer, dira-t-il plus tard. Persécutée, placée sous la tutelle des jésuites, leurs ennemis, privées de sacrements, elles seront dispersées et l'abbaye de Port-Royal des Champs sera rasée en 1711.